the sound. It's not my colors. This is my new generation.
Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Vous le savez très bien, le rendez-vous, c'est chaque jour de lundi à vendredi à partir de 11h sur votre radio. Nous y sommes. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à la 93.5. Le nouveau poste de péage moderne d'Anejo, situé sur la route nationale numéro 2, est désormais fonctionnel. Les travaux de construction et d'équipement sont entièrement achevés et a annoncé mardi le ministre des Travaux publics et des infrastructures, Sani Yaya, dans un communiqué. À ce titre, les opérations de perception des droits d'usage de la route qui s'effectuaient au niveau de la plateforme provisoire en conteneur seront transférées au nouveau poste de péage à compter du jeudi 19 juin 2025, c'est-à-dire aujourd'hui. La mise en service alors de cette nouvelle infrastructure devrait permettre à la société autonome de financement de l'entretien routier s'affaire en charge de la gestion des péages, d'optimiser la collecte des recettes et de renforcer le financement des travaux d'entretien routier. Nous aborderons le sujet dans cette émission Club de la Presse, puisque le sujet nous intéresse, bien sûr. Nous parlerons d'autres sujets liés à l'actualité et bien sûr, et surtout évoqués par des journaux parus aujourd'hui dans cette émission Club de la Presse de ce jeudi 19 juin 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Coco Vitogbe Tomega assure la mise en onde. Jérôme Dakouté est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero Radio, La Paix à Atakpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM, nous sommes à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Club de la Presse, vous pouvez nous suivre aussi à travers le monde entier hein, sur nos différentes plateformes, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous savez que vous pouvez aussi nous suivre hein, sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénèches. Club de la Presse, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain aussi, du monde entier. Et c'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi, confrère qui a déjà répondu à notre invitation, c'est Ambroise Kondo. Ambroise, bonjour.
Oui, Pascal, bonjour. Bonjour les amis techniciens qui sont de l'autre côté. Et bonjour ceux qui nous suivent depuis Lomé et les grandes villes du Togo. Et ceux qui sont de la diaspora, nos amis TikTokers et autres qui font bouger les lignes depuis l'extérieur. D'abord, je compatis à ce qui t'est arrivé. Tu as perdu ta moto. Il y a de cela 2 semaines, c'est ton papa qui est parti. Juste te dire que ça, les Blancs le disent, que le malheur ne vient jamais seul. Mais ici, nous sommes dans un contexte de foi, de bénédiction. Tout ce qui arrive à ceux qui sont les enfants de Dieu, les enfants de Dieu peuvent souffrir de cela, mais ils n'ont qu'à le prendre comme une sorte de bénédiction, parce que ce qui est devant est plus grand positivement que ce qui t'arrive. Et je ne sais pas, les auditeurs aussi sont à l'écoute, ceux qui ont les grands moyens aussi sont à l'écoute. Et ceux, moi je le dis, hein, c'est personnel, ceux qui peuvent aider Pascal à avoir une nouvelle moto serait la bienvenue, parce que quand tu fais du bien, tu es grandement remercié par le Très-Haut. Donc c'est un message. Vous avez les moyens pour pouvoir aider Pascal à avoir une nouvelle moto, il ne faut pas hésiter à le faire. C'est Dieu qui vous rendra au centuple. Ça, c'est un premier message. Maintenant, revenons au vieux constaté. D'abord, il m'est plusieurs fois, cette information m'est arrivée dans l'oreille à plusieurs reprises. Il s'agit du laboratoire national des BTP. C'est-à-dire que c'est un laboratoire d'État qui fait le contrôle des infrastructures routières et autres. Les employés se plaignent tous les jours. Je crois que le directeur général, c'est M. Chamdia, hein. Il est toujours là. Il est là, ça fait longtemps. Hein. Les employés se plaignent tous les jours des conditions de travail, des conditions de vie. Ils se plaignent tous les jours. Nous, je me rappelle, ça fait pratiquement 8 ans, 10 ans, on a écrit sur ce laboratoire les problèmes qui sont là-bas, problèmes de paiement, problèmes de conditions de travail, problèmes de conditions de vie. Donc, l'autorité compétente, le département ministériel qui s'en occupe, aille sur ce département-là et pour régler ces problèmes qui sont là-bas. Parce qu'après tout, c'est les Togolais qui travaillent là-bas. C'est eux qui font en sorte que la route soit bien bâtie, contrôlent l'état de réalisation des voies, des routes et d'autres infrastructures étatiques ou publiques que nous avons chez nous. Le second, c'est la route de Ségbé. Quand vous allez sur la route de Ségbé, vous allez voir, je l'ai dit la dernière fois chez Daredé, la route est déjà très rétrécie. À partir de 18h, les gens quittent le boulot pour venir arriver à la maison. C'est un grand bouchon déjà. Maintenant, l'école primaire publique de Wanyamé, qui se trouve au niveau de, juste à 1 km sur la route de Ségbé, à droite, d'abord, les motos tamponnent les enfants là-bas parce que pour pouvoir traverser la route. Ça, c'est un des deux. La mairie a autorisé des manifestations publiques, des divertissements culturels, de football et tout. Nous, on ne refuse pas que ce genre d'initiative soit faite. Mais que, d'abord, je l'ai dit dans une de nos publications, que ces compétences propres au ministère, aux communes qui délèguent la compétence aux mairies, soient ramenées au ministère de tutelle. Ça, c'est un. De deux, que, puisque la voie est rétrécie, il faut changer le portail central d'entrée de l'école vers l'autre, parce que l'école a plusieurs ouvertures. On peut ouvrir sur le côté ouest, ou on peut ouvrir sur le côté est. Mais le côté sud pose problème parce que c'est juste sur la voie. Et quand les invités, les jeunes, sont venus en foule, ça crée un embouteillage depuis la douane jusqu'ici. C'est pas normal. On va pas chercher de l'argent au point de mettre en péril la vie des gens. Ça, ce message est adressé à la mairie. Ben, vous êtes. Donc, c'est ce à quoi je voudrais en venir, que le ministère de l'Éducation nationale et la mairie s'entendent pour faire une autre ouverture, de carrément du côté nord, carrément au niveau du côté nord, pour que les enfants puissent rentrer par là, et que s'il y a manifestation, les gens rentrent par là. Sinon, sur la route là, la dernière fois, c'était à 19h, moi je rentrais, il y a une ambulance qui passait, ne peut pas. Parce qu'il y a déjà ceux qui viennent de Ségbé, ceux qui viennent de la douane à Idogomé, et l'ambulance va passer où? La voie n'est pas comme celle de Palimé. Et donc, il faut remédier à cela.
D'accord. Merci beaucoup. Merci, Ambroise. Je ne sais pas si, tel que vous l'avez dit, que cette voie n'est pas comme celle alors de Palimé. Je ne sais pas si vous faites aussi la comparaison.
Oui, c'est une voie de 9 mètres.
Oui, mais je ne sais pas si c'est comparable aussi à la voie alors de...
D'Anehor. La voie d'Anehor, c'est une très belle voie.
Tout à fait. Je voudrais quand même qu'on en parle, puisque il y a le péage, hein, qui est opérationnel, et c'est l'inauguration, c'est aujourd'hui, oui, bien sûr. Et là, quand même, quand je me souviens, quand même, tu avais emprunté cette voie et tu l'as apprécié aussi par rapport à son exécution.
Oui, j'ai apprécié à sa juste valeur la route d'Anehor, qui est aussi une route de frontière. Puisqu'on nous parle souvent des routes de frontière. Les routes de frontière, c'est la rue d'Anero, bien bâtie. Même la rue de Palimère est très bien bâtie. Mais la rue de Sébé, j'ai l'impression que allez leur faire quelque chose. J'ai l'impression hein, que c'est ça. On aurait fait la rue de Sébé aussi en double voie. Mon frère, je suis passé sur la rue de Dadero. J'ai dit à Dadero que si ce n'est pas à cause de certaines contingences, je préfère me loger sur la rue d'Anero. C'est-à-dire qu'ils ont réussi cette voie-là. Pour l'instant, visiblement. Même au niveau de l'architecture et de l'esthétique, tout a été bien fait. Je ne suis pas dans un laboratoire de contrôle comme je viens de parler pour savoir si le dosage du ciment, du gravier, du béton, du bitume ont été réalisés. Techniquement, je ne peux pas le dire. Mais ce que je vois visiblement, peut-être dans 20, dans 15 ans ou dans 10 ans, on verra si cette route aura résisté au temps et aux intempéries. Maintenant, comparativement à la route que moi j'emprunte tous les jours de Ségbé, peut-être la route est bien faite. Sur le plan technique, mais une route spacieuse, une route qui puisse. C'est toute une route de 30 mètres. Hein. On prend maintenant juste 9 mètres. Non! Alors qu'il y a des milliers de gens qui passent là-bas tous les jours. Donc, j'apprécie à sa juste valeur. Et je leur dis que la SAFER aussi fait ce qu'elle peut. La SAFER ne construit pas de route. La SAFER, par exemple, mobilise les ressources pour le donner au ministère des Travaux publics pour la construction des routes. Et donc, son travail s'arrête là. Maintenant, il appartient au ministère des Travaux publics de présenter l'offre technique et l'offre financière à toute entreprise de BTP qui veut construire les routes, qui sont bien dans le domaine, pour le faire, et que le laboratoire national de BTP qui contrôle puisse faire un contrôle judicieux, un contrôle et efficient et un contrôle impartial. Parce que c'est des contrôles partiaux qui arrivent souvent et que nous avons des routes qui dégrade comme celle de Dépalais. Après 2 ans, la route se dégrade complètement. Parce que l'argent qui devait servir à construire est passé quelque part.
Merci Ambroise. Et le Matissogui, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous. Je viendrai à ma voix, celle d'Ambroise tout à l'heure, pour te présenter d'abord ma solidarité par rapport à toutes ces choses qui se passent ces derniers temps.
Merci
d'abord,
beaucoup.
Papa, ensuite la moto. Moi, hier, sur les réseaux sociaux, j'ai appris aussi l'information. Mais j'ai trouvé ça quand même bizarre. Mais ici et tout de suite, ce que j'ai à te dire, c'est d'abord te dire beaucoup de courage. Je souhaitais beaucoup de courage.
Merci.
Et aussi m'associer déjà à ce qu'Ambroise a dit pour dire véritablement de rester fort. Et nous prions également les services de police et de gendarmerie de bien vouloir accentuer les recherches pour pouvoir nous aider ensemble à ce qu'on puisse retrouver la moto dans les plus brefs délais.
D'accord, merci beaucoup. Voilà. J'espère que vous allez bien.
Oui, ça va, on rend grâce.
D'accord,
va.
C'est l'essentiel. Magloire Kenviteko, bonjour.
Bonjour à toi Pascal, bonjour aux confrères Ambroise et Elon.
J'espère que vous allez bien.
Oui, ça va, sauf que depuis hier, je suis pas à moi-même, il faut le dire, parce que quand j'ai appris ta mésaventure, je dis, mais tiens, ces voleurs-là aussi, hein. Parce qu'en réalité, s'il va falloir chercher à faire du mal à quelqu'un dans ce pays actuellement, et c'est un journaliste, je comprends pas.
Non, il est maudit.
Non, sérieux, je comprends pas et... Ouais. Vu tous les efforts que nous faisons déjà pour, c'est un peu comme un sacerdoce. Et dans cela encore, ajouter une autre peine, je me dis, c'est le comble en fait. Mais comme l'homme l'a dit, d'abord toute ma compassion et on prie vivement les services techniques à nous aider à retrouver ces délinquants-là. Et pour que la loi s'occupe d'eux véritablement, parce qu'il le faut.
D'accord, parce qu'il le faut. Merci beaucoup hein, pour vos mots de solidarité à notre égard. Alors, je parlais alors de ce nouveau poste alors de péage, hein, Modène d'Anero, et qui est situé bien sûr sur la route nationale numéro 2 et qui est désormais fonctionnel. Les travaux de construction et d'équipement sont entièrement achevés. Et c'est ce que le ministre des Travaux publics et des infrastructures, Sani Yaya, a annoncé le mardi dernier. Et là, Magloire, on pourra dire que avec cette inauguration, ou déjà le fait que ce poste alors de péage est fonctionnel aujourd'hui, ça veut dire que les travaux de cette route sont achevés et que nous pouvons apprécier.
Bon, peut-être je vais vous surprendre, mais moi je ne vois pas un angle d'analyse dans cette affaire, c'est de l'information. Les travaux ont duré un temps donné, on a érigé le PA et aujourd'hui c'est fonctionnel. Ben, basta quoi, qu'ils fassent leur travail. Et puis ce qu'on demande tout simplement aux services techniques, aux services compétents, c'est que mais la contribution des usagers, que ça puisse profiter justement ou servir à entretenir la voie au moment opportun, quoi. Pour moi, à part ça, il n'y a pas d'angle d'analyse pour moi.
Et mais bien sûr, le sujet est là parce que déjà au début même des travaux, on sait quand même que les travaux ont accusé des retards. Et nous en avons parlé même d'ailleurs au Club de la Presse ici, bien sûr. Mmh. Et aujourd'hui, oui, tout est fini et que les travaux sont livrés.
Oui, oui, mais écoutez, je crois que quand un entrepreneur gagne un marché, il y a un temps imparti. On avait suffisamment débattu là-dessus ici. Et ce temps imparti s'est écoulé depuis longtemps. Bon, pas la force des choses, ils sont arrivés à le faire. Dans la médiocrité peut-être, mais ils ont réussi à le faire. Mais tant mieux quoi. La route est là.
Mais je suis sûr, il y a un Ambroise qui a emprunté la route et il a apprécié maintenant.
Depuis quelques semaines, Ambroise est très nostalgique par rapport à la voie Lomé à Nevo. C'est son droit. Mais je dis, il n'y a rien d'extraordinaire, quoi. Quand vous gagnez un marché,
du temps de réalisation. Hein.
Oui, du temps de réalisation.
Je parle de la beauté de la chose.
Voilà.
De l'esthétique.
Mais je parlerai également de la route Lomé-Palimé. C'est une route parfaite. Mais c'est pas ça le plus important. Quand l'État attribue le marché et qu'une entreprise gagne le marché, c'est qu'on attend à ce que le marché soit rendu très propre. Et je crois savoir que c'est ce que les entreprises ont fait. À part ça, ben, j'attends que la maigre participation des usagers, puisque les motocyclistes même vous payez 50 francs ainsi de suite par rapport aux différentes catégories d'engins. Mais l'essentiel est que quand une partie de la voie, peut-être après 5 ans, 10 ans, va s'abîmer, qu'on ne mette pas assez de temps pour replâtrer ou pour réparer, quoi. Parce que pour le moment, je crois que les usagers, les populations font ce qu'ils devraient faire en réalité. Donc, on observe bon vent et vivement qui se pose pas des problèmes éventuels pour qu'on vienne ici en discuter.
D'accord. Et donc c'est vrai que là, ce routier est un réaménagement où il y a de la réhabilitation de certaines routes. Alors dans notre pays, on souhaiterait justement quand même qu'il y ait assez de routes qui soient totalement réhabilitées pour une belle circulation.
Oh, ça c'est le souhait de tout le monde. Mais là où vous savez, tout est priorité aujourd'hui. Dans le pays, tout ce qui se passe aujourd'hui au Togo, c'est au-delà de la construction des routes, c'est que le Togolais a faim. D'abord, c'est-à-dire que on est dans une situation de sous-emploi également. Il y a beaucoup de choses, c'est pourquoi je dis tout est prioritaire. On veut des routes, on veut justement que, oui, à la fin de l'année, que l'État nous dise, parce que il suffit pas aussi que la SAFER collecte de l'argent pour l'entretien routier. Il faut qu'à la fin de l'année, l'institution en charge de pouvoir faire l'entretien routier au niveau du ministère des Infrastructures dise exactement au peuple, aux citoyens, aux journalistes, aux médias, à l'opinion publique, et voilà ce à quoi consistaient les fonds par rapport à l'entretien routier. À la fin d'une année, faites-nous le bilan, quoi. C'est-à-dire, il ne faut pas... Parce que ça aussi, c'est un problème au pays. C'est l'argent du contribuable. Les gens payent, les gens versent quand même des frais de péage. Maintenant, à la fin de l'année, dites-leur juste que oui, pendant l'année 2024, nous avons, conformément au plan d'entretien routier, nous avons pris cette route-là. Quand vous prenez le tronçon Lomé à Nero, à hauteur de Baguida, sur une distance de 15-20 km, nous avons réparé le tronçon, nous avons fait de l'asphaltage, nous avons fait ceci, nous avons fait cela pour un coût estimé à temps. Vous prenez la route Lomé-Anero-Tablibo, vous venez à hauteur de temps, vous avez temps, nous avons fait ceci, mais ça c'est le plan. Le plan de l'entretien routier, le plan de ce qui sera fait dans l'année, le plan annuel. Ce qui fait que, bon, le ministère, le département qui se charge de ça, le département dit que nous faisons le plan en début d'année, d'accord, par rapport à ce qui doit être fait dans l'année. Donc, si à la fin de l'année, naturellement, si la SAFER collecte de l'argent et met ça à la disposition de ces départements-là, il faut que les départements viennent ou bien disent au moins que dans l'année, on a fait ceci, on a fait cela. C'est l'entretien routier. C'est normal que les populations comprennent. Mais si les populations ne comprennent pas, les citoyens ne savent pas ce à quoi sert leur argent, ce qu'ils donnent au péage, excusez-moi, mais vous allez tout le temps voir des citoyens continuer d'insulter les gens qui sont à la caisse au niveau des péages. Parce que les gens ne savent pas exactement ce à quoi l'argent est destiné. Ils vous disent que, mais voilà, nous payons l'entretien routier, mais quand vous prenez telle route, on vous dit toujours qu'il y a un trou. Quand vous allez sur telle route-là, vous allez voir qu'il y a un trou, il n'y a pas d'entretien de routier qui est fait, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, vous comprenez. Donc les gens sont frustrés, les gens sont nerveux, ils se disent, mais on donne tout ça là, à la fin de la journée. Bon, comment on fait? Comment est-ce qu'on fait? Maintenant, à part ça aussi, bon, il y a aussi d'autres choses qu'il va falloir revoir. Donc, le principe du compte rendu, c'est-à-dire qu'il faut rendre compte au peuple par rapport à ce qui a été fait. C'est tout ce que les gens souhaitent exactement. Maintenant, les routes, oui, on en a besoin. Comme Magloire l'a dit tout à l'heure, c'est important d'avoir des routes. Je vois que mon ami Ambroise, il est très, très emballé par la qualité de la route qui est nommée en Europe, de cette nationale. Bon, c'est bien, c'est une bonne chose. C'est vrai que c'est quand même une route qui est bien tracée, bien faite. Donc, à part ça, il va falloir qu'on puisse, dans d'autres secteurs aussi, voir ce qu'il y a lieu de faire. Et surtout la nationale numéro 1, qu'il va falloir véritablement revoir. Ça, c'est très important.
Il a chuté sur deux points. La nationale numéro 1, je commence par là. Il faut carrément une autoroute pour la nationale numéro 1. Une autoroute qui puisse durer 50 ans. Comme on en a connu sur la rue d'Accra, l'ancienne rue d'Accra. On était à Accra en 96. On nous a dit que la route là durait plus de 40 ans. Taï, c'est vrai que quand la route est en béton armé, et ça traîne beaucoup de temps avant de s'effriter. Et quand ça le fait aussi, on le dit, son pour l'arranger, ça demande beaucoup de coûts. Mais c'est une route à béton armé depuis combien de centimètres? Ils nous ont donné... c'est une route vraiment armée qui a duré pendant longtemps. Pourquoi on ne peut pas faire ça ici? Ce qu'on a fait en Europe, je le dis techniquement, je ne mesure pas le design de tout ce qui a été utilisé là-bas. Mais moi, je vois l'esthétique et la beauté de la route et comment la route a été faite avec toutes ces signalisations jusqu'à aller à Europe. Et quand tu rentres à partir de Baguida en même temps, la manière dont ils ont fait les trottoirs, tout ça là, tu serais content de vivre dans le quartier. C'est sérieux. J'invite Magloire de passer.
Voilà.
Peut-être, je ne sais pas si c'est les sables de plage qui agrémentent la beauté, mais j'ai compris quand même qu'il y a une certaine esthétique qui lorgne la voie jusqu'à Anero. Maintenant, la rue de Palimé aussi a été bien bâtie, il faut le reconnaître, et seulement la rue de Ségbé. Maintenant, il faut qu'il retourne aussi dans des fallées. Il y a d'autres routes qu'il faut construire. Mobiliser les fonds. Maintenant, et l'homme l'a dit, il appartient au ministère des Travaux publics de faire le contrôle. Et il a dit aussi un truc très important, c'est la reddition des comptes. C'est-à-dire que le contrôle, souvent, la réfection, c'est... Comment on dit ça? On a construit la route, c'est un peu gâté, on vient réparer. Voilà, la réparation.
C'est l'entretien routier.
L'entretien routier, par exemple, entretenir les routes avec certaines nids de poules ou autres. Oh non, c'est les chantiers qu'on octroie à certaines entreprises de BTP qui soumissionnent. Vous soumissionnez, il a dit, on soumissionne, on a une offre technique, une offre financière plutôt, et une offre technique, et le ministère sert la liste des entreprises de BTP qui sont affectées dans telle route. Dans 3 mois, on répare cette voie-là, on publie la liste de ceux qui ont réparé ici, on donne un délai, et on donne le montant. Ce qu'il a dit, c'est très important. Ça va obliger les entreprises à être dans le temps et à faire le travail efficacement. Et en le faisant, après, le laboratoire national vient maintenant faire le contrôle. Si c'est à lui de contrôler. Et on publie tout ça là, le degré de réparation jusqu'à 70%. Le laboratoire peut dire que c'est bien, ça a été bien réparé, ça peut durer jusqu'à tel temps. Ça, on ne nous fait rien de tout ça. Les gens, c'est pour monde, pour mobiliser les ressources. Maintenant, on demande maintenant au ministère de suivre comment les travaux sont faits.
Oui.
Ce n'est pas la SAFER qui construit, ce n'est pas la SAFER qui contrôle.
C'est clair.
C'est-à-dire, tu sais, j'ai eu à finalement enquêter. Finalement, ce n'est pas la SAFER qui fait tout ça. La SAFER mobilise les fonds à travers les péages et tout ça.
D'accord. Merci.
Maintenant, il faut que le ministère des Travaux publics et que les laboratoires nationaux puissent nous faire le bilan chaque année.
D'accord, merci. Magloire.
Non, mais en plus de cela, vous savez, il est généralement dit que la route du développement passe par le développement de la route.
Tout à fait.
Et je suis parfaitement d'accord que même si les travaux ont duré dans le temps, au moins c'est fait, c'est un satisfecit. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est d'attirer également l'attention du gouvernement par rapport à la route Lomé-Tapaon. Cette route-là, elle est meurtrière.
C'est celle nationale numéro 1.
Ah oui, elle est très meurtrière. Quand vous prenez les statistiques du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, lorsqu'il s'agit de faire semestriellement le bilan sécuritaire de l'année, vous allez vous rendre compte que la portion de route qui est plus meurtrière dans le pays, c'est la nationale numéro 1, Lomé-Tapaon. Et on se demande mais pourquoi jusque-là, on ne pense pas à retaper cette route-là. Vous voyez un peu, quand on annonce un accident, si ce n'est pas entre Ngontien et Atapame, c'est généralement dans la zone. Et quand un accident survient sur cet axe-là, il y a vraiment des dégâts. Il y a vraiment des dégâts. Hier, par exemple, le chef de l'État était allé inaugurer une usine à Pia là-bas. Mais vous ne pouvez pas imaginer les fils de voitures qui à Didikope jusqu'à presque Ngontien, parce que le chef de l'État allait passer, il est dans la zone et vous voyez un peu comment la route là est trop exiguë. Et donc je pense que aujourd'hui c'est bien, on se satisfait de ce qui est fait, mais il faut maintenant penser à réhabiliter carrément. On nous avait annoncé entre-temps le grand boulevard de l'Unité, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Le boulevard de l'Unité. Voilà, qui doit relier Lomé à Tapaon. Mais depuis des années, personne n'en parle. On ne dit plus rien. Alors qu'en réalité, chaque jour que Dieu fait, vous et moi, nous avons idée du nombre d'accidents qui est enregistré sur cette route.
Mais est-ce que ce n'est pas aussi une question de moyens?
Non, je suis d'accord, c'est une question de moi, mais jusqu'à quand? Mais c'est quand même la vie des humains, des citoyens togolais. Voyez-vous, on a créé d'autres institutions pour entrer dans la 5e République. On a créé le Sénat, on a créé quoi? Beaucoup de choses, et il va falloir l'argent pour les entretenir. On a vite fait de trouver l'argent pour quand même pas payer les sénateurs et tout. Mais s'il s'agit juste de sauver la vie du citoyen togolais qui travaille pour renflouer les caisses du trésor, mais il n'y a pas de sacrifice à faire, il n'y a pas un grand plus de sacrifice à faire que ça. Voyez-vous? Donc, c'est juste une interpellation.
Merci pour l'interpellation.
Non, je dis, il y a du chemin qui est fait quand même, mais il faut vraiment attaquer également la route Lomé-Tapaon.
Merci beaucoup, Magula, pour cette interpellation. Elam, je reste avec toi et pour parler cette fois-ci alors du don de sang. Et vous revenez bien sûr sur ce liquide très précieux et très vital pour nous, les humains. Et vous écrivez: Togo, Centre national de transfusion sanguine, nouveau cri d'alarme pour le don de sang, déficit préoccupant de poches de sang, 16 000 produits sanguins indisponibles, le CNTS lance un appel pressant.
Oui, non, c'est important de pouvoir donner du sang pour contribuer à sauver des vies. Vous savez que depuis quelques années, les citoyens l'ont compris au Togo, il y a beaucoup plus de volontaires qui donnent du sang pour sauver des vies. Et à la faveur du 14 juin, qui est la journée mondiale du don de sang, le Centre national de transfusion sanguine a quand même lancé un nouveau cri d'alarme pour demander justement que les citoyens manifestent encore leur bonne volonté en ce qui concerne le don de sang. C'est aujourd'hui très important parce que les produits sanguins sont rares. Les poches, vous avez vu, il a parlé de 16 000 produits sanguins disponibles sur le premier semestre. Donc sur ce semestre-là, il va falloir que les gens puissent volontairement se mobiliser pour pouvoir donner de leur sang pour sauver des vies humaines. Donc c'est l'appel également que nous contribuons à lancer ce matin pour que voilà, que le sang attende plutôt le malade plutôt que le malade vienne plutôt à attendre le sang.
Ambrose, est-ce que vous comprenez quand même que le fait que des gens n'ont pas cette volonté ou bien ne trouvent pas tellement de volonté pour cette opération?
Les comprendre en ce moment, peut-être oui, parce que les gens sont actuellement dans les couvents, certains sont chez les marabouts, d'autres chez les alphas et tout ça, mais je vais les rassurer, que le diable ne cherche pas le sang qui est propre comme ça. Donnez quoi, votre sang.
Quoi, vous connaissez le diable?
Oui, la Bible nous a appris ce que c'est que le diable, Lucifer. On nous a appris ce qu'il est. Parce que on nous a dit qu'on l'a chassé sur la terre. Gare à ceux qui sont sur la terre.
Et vous savez ce qu'il aime?
Oui, c'est le sang humain. Nous a-t-on dit qu'il aime. Mais quand moi je donne mon bras pour qu'on puisse prélever mon sang, je ne vais pas souffrir avant que mon sang ne sorte pour guérir quelqu'un. Mais c'est le diable aime martyriser. Tu dois crier, tu dois avoir la douleur. C'est-à-dire on te sacrifie, c'est le sang-là que eux ils aiment. Donc que les Togolais n'aient pas peur de donner leur sang. C'est-à-dire que donnez votre sang pour sauver des vies. Et il faut déjà faire l'analyse de votre sang, par l'analyse, savoir quel sang, quel registre vous êtes. Avant d'y aller donner, vous avez votre carte d'identité nationale. Là, vous êtes obligé de passer par votre qu'on dit pour avoir le registre dont qui est dans votre sang. Ça, vous êtes du groupe B+, O+, B-, AB+, etc. Et vous avez votre carte, vous allez. Et ça facilite le travail à nos amis qui sont au centre de transfusion sanguine. Toute personne, je ne m'y connais pas, mais je sais que je l'ai une fois fait, deux fois même de suite. Et on vous donne quelque chose à manger, on vous donne à boire, vous prélevez votre sang, ça ne touche en rien. Parce que ce que nous les hommes, on sort toutes les semaines là. Ce n'est pas le petit sang que vous allez donner pour sauver la vie à quelqu'un. Et qu'en retour, vous retrouvez en pleine bénédiction. Ce n'est pas ça qui va vous coûter quoi que ce soit. Et n'ayez pas peur que votre sang soit servi à autre chose. Non. Donc, c'est souvent des choses. Nous, on dit tout. Moi, je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. Hein, que les gens élaguent tout ce qui est peur. Enlèvent tout ce qui est la peur. Donnez votre sang. Et ayez foi en vous-même et en Dieu. Vous donnez votre sang pour le bien. Rien ne peut vous arriver. Et soyez content que vous sauvez des vies quelque part.
D'accord. Oui, Magla, aujourd'hui, si la CNTS lance alors cet appel, c'est parce que au fin fond, il y a un manque cruel alors de sang.
Oui, je crois que le mal est persistant depuis des années durant. Hein. C'est vrai que par moment, on trouve des solutions, mais des solutions parcellaires, on va le dire. Mais le mal, il est chronique, en fait. Et comme Ambroise l'a dit, vous savez que il y a deux ou trois ans, l'UPF Togo avait initié une démarche comme ça, de concert avec le CNTS, pour sensibiliser les gens à aller donner de leur sang pour sauver des vies. Et ça nous a permis véritablement d'avoir une idée de ce qui amène à cette réticence-là vis-à-vis de la population. En réalité, ce qu'Ambroise dit n'est pas faux. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les superstitions, ils sont dans les supputations, et essaient, n'est-ce pas, de dissuader les gens à ne pas aller donner de leur sang, parce qu'estimant que, on ne sait pas ce que devient le sang après. Et ça fait que, bon, étant aussi des croyants quelque part, ça agit beaucoup sur le mental, la psychologie de beaucoup de gens. Mais en réalité, le danger, c'est que, une fois que la personne vient te dissuader de ne pas aller donner de ton sang, ce n'est pas aller donner complètement ton sang pour faire ou sauver quelqu'un, mais donner de ton sang. C'est-à-dire que tu en as suffisamment, Dieu t'a bien renfloué de sang, mais tu donnes une petite partie, ne serait-ce que pour sauver une vie quelque part qui est en souffrant. Mais tu refuses parce qu'on t'a dissuadé. Mais tu ne sais pas ce qui va arriver dans 2 minutes, dans 3 minutes, sur toi-même. Donc, c'est la leçon de morale qui réside dans cette affaire et que nous tous, nous devons nous sentir interpellés. Parce que à tout moment, on peut se retrouver en situation de manque de sang. Si c'est pas toi, ça peut être un membre de ta famille, ainsi de suite. Donc, laissons de côté les superstitions. C'est un geste hautement symbolique, humaniste et humanitaire. Et ça, tellement, depuis fort longtemps, ça continue. Ça ne va pas s'arrêter sous peu. Et donc, je ne saurais que mobiliser les gens, encourager les gens à aller, malgré toutes les rumeurs, malgré tout ce qu'ils peuvent entendre, qu'il n'y a rien de méchant derrière, il n'y a rien de superstitieux derrière. C'est un geste fort, humaniste et humanitaire qu'on doit faire sans calcul.
Alors, c'est un geste humanitaire, justement, qu'on doit faire sans calcul. Et le CNTS fait cet appel pour que, du moins, on apporte un peu de notre sang. Ce n'est pas que c'est tout le sang qui sera vidé de notre corps.
Absolument.
Et là, c'est pour sauver des vies. Et il est très important quand même que nous lancions aussi cet appel pour que les uns et les autres puissent alors se mobiliser pour ce don de sang pour sauver des vies.
Bien sûr, c'est justement pour ça que moi, étant donneur universel, je ne me lasse pas. C'est juste hier ou avant-hier, je disais aux confrères à la rédaction que je me vois dans l'obligation de donner du sang cette semaine.
C'est ton devoir.
C'est mon devoir. C'est mon devoir. Et du coup, si je l'ai toujours fait, et je vais vous raconter cette anecdote. Il y a 2 ans, j'étais allé au CNTS pour donner du sang. Et je blaguais, je disais à l'agent, le médecin là-bas, que moi, j'ai envie de donner 2 ou 3 poches en même temps. Et il me dit, toi, gringalet comme ça, faut pas mourir sur la table ici.
C'est pas une question de gringalet.
Voilà. Et on a souri ensemble. En réalité,
mais c'est parce que tu as envie de sauver beaucoup de vies.
Exactement. Ça reflète un peu toute ma volonté, n'est-ce
Tout
pas, de
fait.
Contribuer à l'existence de l'humanité. Et quand je le fais, je ne suis pas encore mort. Ce n'est pas peut-être Kodjo Abla ou Pia Balo qui est là quelque part qui va le faire et mort s'en suivra.
D'accord, Magla, je reste avec toi pour ce titre que vous avez écrit à la une de votre journal Flambeau des démocrates. Vous écrivez Togo Amnesty International et vous citez ces propos alors d'Amnesty International. Vous écrivez cessez de réprimer alors les voix dissidentes. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Non, je crois que ce n'est pas nous qui le disons, ce n'est pas le journal Flambeau qui le dit, mais c'est Amnesty International qui l'a dit dans son rapport publié sur le Togo le mardi cette semaine. Et le rapport fait suite donc aux derniers événements qui ont eu lieu justement dans le pays au lendemain donc de l'arrestation de l'artiste Amron et de la descente dans les rues d'une partie de la population qui réclamait justement plus de liberté, qui manifestait leur ras-le-bol contre la vie chère et beaucoup plus également, même si on le dit très peu, contre cette nouvelle réforme constitutionnelle. Et donc, ce qui en est suivi, on est tous au courant, arrestation des manifestants. Et il s'est fait que parmi les manifestants relâchés, Amnesty International a mené une enquête auprès d'eux. Et il a même publié des témoignages assez glaçants. Comment les gens ont été détenus, dans quelles conditions ils ont été détenus. Et sur la base de tous ces témoignages-là, Amnesty International a conclu évidemment qu'il y a eu des velléités ou du moins des actes de torture, des actes inhumains qui sont vraiment contraires à toute la législation internationale. Et d'ailleurs, rappelez que le Togo a d'abord souscrit, n'est-ce pas, à plusieurs instruments juridiques à travers le monde et qui sont contre ces pratiques-là et quelque part interpellent le gouvernement non seulement à ouvrir une enquête pour dénoncer, enfin pour lever un coin de voix sur peut-être l'identité de ceux qui s'adonnent à ces actes, mais également à cesser, n'est-ce pas, de réprimer les voix dissidentes dans le pays. Et quelque part, Amnesty rappelle que ce n'est pas la première fois que le Togo se voit auteur, n'est-ce pas, d'actes de torture et que à plusieurs reprises, la Cour de justice de la CEDEAO a déjà condamné le Togo pour ces genres d'actes. Et donc, c'est un peu le résumé de ce rapport de Amnesty que nous avons publié dans notre parution de ce jour.
D'accord. Oui, et l'homme, si tant est que déjà nous sommes au 28e siècle et qu'on écoute encore qu'il y a des actes inhumains et dégradants qui ont été posés sur des manifestants qui ont été arrêtés, allez, est-ce qu'il ne doit pas y avoir d'inquiétude?
Oui, je crois quand même que ça nécessite une enquête indépendante de la part des organisations des droits de l'homme, de la CNDH, pour vraiment s'assurer de ce qui s'est passé et de situer les responsabilités. C'est normal, parce que les droits de l'homme ont un caractère inaliénable et imprescriptible. Donc, en réalité, les institutions responsables de pouvoir assurer de protéger les droits de l'homme sont quand même enfin, il relève quand même de la responsabilité de pouvoir faire une enquête et de dire voilà ce qui s'est passé, voilà comme la CNDH par exemple et bien d'autres. Donc voilà, voilà ce que je peux dire par rapport à cette information là. Et bon, on espère que la CNDH est à pied d'œuvre, les organisations de défense des droits de l'homme et aussi bien d'autres organisations qui sont dans le domaine, pour que véritablement la lumière soit faite sur les circonstances qui ont entouré ces images qu'on retrouve sur les réseaux sociaux depuis un moment, et aussi ces personnes qui ont quand même été arrêtées et qui se sont plaintes justement des traitements inhumains et dégradants.
En bref, c'est la FIDH qui nous a d'abord annoncé ces traitements inhumains et dégradants sur des manifestants arrêtés, et cette fois-ci c'est Amnesty. Ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose qui s'est passé.
Oui, quand ça rentre dedans comme ça, ça doit inquiéter nos autorités. Souvent, ils balaient de revers de main tout ça là, et ils répondent toujours par des allégations, eux aussi, par des tissus de mensonges, comme quoi rien de tout ça, on est en train de mentir dans leur compte. J'ai vu un communiqué comme ça. Mais je dis que nous ne sommes plus dans les années 80, encore moins dans les années 90. Nous sommes en 2025 et que les autorités de ce pays doivent comprendre que ce ne sont plus les gens qui dirigent. Maintenant, c'est les réseaux sociaux qui dirigent. Vous allez voir, tous ceux qui prennent la parole maintenant, même si on les considère comme des fous ou des imbéciles, c'est des citoyens qui prennent la parole.
Et mais après tout, ces réseaux sociaux, c'est un cadre juridique. Hein?
Le Togo n'est pas le seul pays à vivre ce qui se passe. Les réseaux sociaux peuvent faire un coup d'État. Je n'invente rien. C'est pourquoi quand ça commence, à certains milieux, on coupe. En Iran, actuellement, ils ont coupé. Parce que là, ils disent qu'Israël utilise les canaux, les fibres pour pouvoir faire sauter telle ou telle institution. Ceux qui ont torturé la dame, tout jusqu'au président de l'association des étudiants élèves du Togo, j'ai vu sa vidéo, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Mais ceux qui ont fait ça, ils seront punis demain. Ceux qui ont donné le commandement, c'est-à-dire ceux qui ont donné l'instruction de le faire, ils seront jugés demain. Ça peut traîner, mais pourvu qu'ils soient en vie, même s'ils meurent, papa va me prouver Yomo. Ça dit que vous avez des enfants, qui portent votre nom. Vous avez beau changer le nom de famille de votre enfant, mais ça va vous rattraper. Qui donne ces ordres-là? Donc quand ils donnent, ils pensent que eux ils sont disculpés, ils ne sont plus concernés. Mais quand ça va péter, les langues vont se délier. Tout ce qu'on apprend aujourd'hui, il y a des choses qu'on n'apprenait pas. Qu'on apprend aujourd'hui, tel monsieur a fait ça. C'est les gens du même système qui envoient les informations. Et donc pour dire que vous avez beau torturer, moi j'ai vu certains soldats devenus fous. Moi j'étais un Konakwe. Des gens sont devenus fous. Et quand ils passent, tu sais que c'est un soldat. Ils ont servi dans ce pays. C'est là les conséquences. La nature est de loin. Hein. Quand vous violez cette loi-là, ça vous revient à la figure. Et le mal, c'est que ça revient non seulement à vous, mais à votre génération, à vos enfants. Et donc, nous on est tranquille parce que quand les Kouloum ont fait du crime à Tapamé, ils sont décédés. Ce n'est pas fini. D'abord, il est actuellement peut-être en genoux devant le diable, là-bas. Et moi, je n'ai rien contre ces enfants. Mais je plains. Parce que quand, sur certaines plateformes, ça revient toujours. Hein. Les crimes qui ont été commis dans le pays, le régime, évidemment, ça revient. Il y a une vidéo qui circule. Tu vas voir, tu vas pleurer dans ta chambre. Donc, ceux qui le commettent aujourd'hui, les Ernest Nassimbe sont partis, il y en a qui sont les Djoua qui sont partis, mais ça colle à leurs enfants. Et à leurs petits-enfants. Mais la nature va punir. Et Dieu va punir. Mais la loi aussi va punir.
Merci Ambroise. Oui, c'est vrai. Nous parlons alors des réseaux sociaux, des plateformes. On a vu également cette conférence organisée par Massa. Massa qui, justement, devait se tenir du 26 au 28 juin. Mais finalement, la rencontre a été reportée. C'est justement le groupe Massa même qui a annoncé ce report. Il y a le journal Canal D qui est revenu sur le sujet. Le journal écrit conférence Miss Mansa 2025, Alain Foucault et les siens ont-ils craqué face aux voix marginales mais bruyantes? Et c'est une question que le journal se pose. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, nous avons vu la manière dont les commentaires ont suivi justement cette sortie du confrère Alain Foucault et par après l'annonce alors du report de cette conférence. Mangola, est-ce que vous avez été surpris par le report alors de cette conférence?
Peut-être pas, mais surpris par une certaine, on va dire, contradiction dans le que j'ai relevé de mon point de vue dans l'annonce de ce report. C'est quand on dit que des voix marginales mais bruyantes, c'est-à-dire que les deux mots pour moi c'est déjà antithétique. Quand tu es marginal, c'est que tu es en minorité, ta voix ne devrait pas porter. Mais au même moment, on dit que tu es bruyante et que c'est nos aînés que nous respectons tant, les gens de la trempe d'Alain Foucault qui nous font ce genre de jeu de mots. Je me dis, il y a problème quelque part. Et en réalité, moi, le report de cet événement, l'analyse que je fais de ça, c'est qu'en réalité, ça... C'est une réponse à ceux qui pensaient que les événements du 5 et du 6 ont été un échec, objectivement. Parce que d'abord, on a vu tout ce qui s'en est suivi, la réplique des forces publiques. Et aujourd'hui, on fait référence peut-être à ces événements pour reporter, n'est-ce pas, la conférence. Ça voudra dire qu'on est conscient de quelque chose. On est conscient du fait que... une conférence qui normalement devrait se tenir à 2 février,
le soir, le mai,
dans un cadre sécurisé et tout, mais qu'on soit amené à reporter parce que on sent peut-être une menace venir de loin d'une portion de Togolais marginaux, mais dont la voix est bruyante. Je dis, ça c'est un message un peu profond. Et quand vous scrutez un peu, même la vidéo, l'interview que M. Alain Foucault avait fait sur le cas du Togo, mais il s'est posé des questions. Il n'a pas nié d'être ami au chef de l'État, mais quelque part il dit s'il y a souci au Togo, mais est-ce que c'est à lui de dire au chef de l'État qu'il y a souci dans son pays, que lui-même doit en être conscient? Donc je pense que objectivement,
mais il a si bien dit quand même qu'on lui donne assez d'honneur qu'il n'en a pas.
Non, mais en réalité, pourquoi je veux tenter d'être dans la tête des Togolais qui pensent cela? Voyez-vous, quand on voit M. Alain Foucault lors des cérémonies officielles, dans la loge officielle, à 1 mètre ou à 2 mètres du chef de l'État, alors qu'au même moment, quand le chef de l'État va passer quelque part, les Togolais, beaucoup de Togolais sont chassés au bord des routes et tout, mais on doit vous considérer comme un privilégié. Et donc, vous savez qu'il porte aussi une sorte de panafricanisme depuis un moment. Et je crois qu'il est aussi victime parfois de l'idéal qu'il porte, parce que il y a pas longtemps, avant qu'on introduise cette réforme constitutionnelle au Togo, il avait essayé de décrire les régimes politiques qui font que l'Afrique n'évolue pas. Et donc aujourd'hui, les gens ont vite fait le lien, même si ce n'est pas lui le porteur, vu sa proximité avec le chef de l'État et tout, on semble peut-être voir son ombre derrière la réforme. Mais toujours est-il que on parle du report. Moi, je le dis, c'est une initiative portée par les Africains pour l'Afrique. A priori, ça doit fédérer les gens. Mais si ça ne commence pas diviser les gens, c'est qu'il y a un problème. Et ce report, justement, vient ajouter de l'eau au moulin de ceux qui pensent qu'on doit marquer une pause et essayer de gérer d'abord les problèmes structurels du temps moderne ou du temps actuel, que d'enchaîner les conférences et tout qui n'ont aucun impact peut-être directement sur la vie des Togolais.
D'accord. Alors, est-ce que vous êtes arrivé à comprendre ces rififis autour même d'ailleurs de cette conférence, Mansa?
Bon, c'est vrai que depuis un moment, même depuis l'installation de Mansa, vous avez sur les réseaux sociaux suivi beaucoup de critiques. Donc, c'est pas nouveau. Maintenant, c'est aussi la conviction que doit porter le confrère Alain qui est à revoir, parce que vous savez, il y a beaucoup qui attendent de lui, qui attendent beaucoup de lui. Il y a des Africains, des gens qui attendent beaucoup de lui, parce que quoi qu'on dise, pour une certaine partie de la jeunesse, Alain Foucault comme journaliste sur RFI, ancien journaliste, c'était quand même une figure emblématique. Maintenant, après, de là à porter l'opinion ou se faire le défenseur du panafricanisme, je crois quand même que le contexte, il faut aussi l'analyser, parce que quand vous prenez l'Afrique subsaharienne aussi, aujourd'hui avec l'Afrique de l'Ouest, avec tout ce qui se passe au niveau des pays, il va falloir peut-être revoir ou réfléchir autrement par rapport à la façon d'aborder le panafricanisme, parce que tout dépend de la position stratégique du pays. La façon dont, par exemple, un pays comme le Togo aborde le panafricanisme, ce n'est pas de la même manière que la Côte d'Ivoire ou le Burkina l'aborde, vous savez. Donc c'est quand même difficile de pouvoir mettre tous l'ensemble. Donc si on a 54 États que vous faites la côte du panafricanisme, il va falloir que vous puissiez dans une certaine mesure faire un travail profond sur la base de vos relations, comme il en a, et de pouvoir ratisser large afin de pouvoir faire un travail. Maintenant, l'opportunité de la conférence à Lomé, je crois quand même que il avait prévu sa conférence depuis un moment. Maintenant, après, la situation sociopolitique du pays ne permettait pas. Je crois qu'à un moment donné, il va falloir tirer les conclusions. Mais je crois que fondamentalement, il doit quand même se retrouver autour d'une table pour repenser le panafricanisme ou le projet.
D'accord. En vrai, est-ce que vous avez aussi la même impression, c'est-à-dire que le groupe Mansa doit justement repenser ce projet?
Oui, je crois qu'il y a une question idéologique liée au panafricanisme. Les gens le prennent en deux pôles. Ceux-là qui sont des dictateurs aussi s'arrachent le credo du panafricanisme. Et c'est ceux-là qui accusent, ceux-là dont on accuse, c'est ceux-là plutôt qui sont au milieu de l'accusation qui tire le boulet rouge vers M. Alain Foucault qu'on connaît sur RFI et qui s'est installé au Togo. Le problème de M. Alain Foucault au Togo, c'est d'avoir vendu le chien à la place du chat. Je l'ai déjà dit. Il est accusé d'avoir vendu un projet de constitution d'un régime parlementaire que les Togolais contestent, que les Togolais ont déchiré dans leurs âmes et esprit et conscience. Ça veut dire quoi? Vous apportez quelque chose au président de la République qui a déjà fait quatre mandats, alors qu'on lui demande de limiter le mandat à deux. Il est dans sa cinquième, de peur de pouvoir se présenter pour un cinquième mandat. Il s'achète votre service, vous lui proposez un service comme quoi le meilleur de tous les régimes, c'est le régime parlementaire. Et un régime parlementaire qu'il a façonné à son image pour s'éterniser au pouvoir. Qui est l'auteur de ce déni de droit? Qui est l'auteur de cette envie de conserver le trône ou le fauteuil? C'est Alain Foucault. Voilà le péché mignon de notre cher confrère ou compte de frère qui lui va directement à la figure actuellement, et il va en payer le prix, pas seulement au Togo, mais dans les pays épris de démocratie ou qui sont en quête de démocratie. Parce qu'en fait, ce n'est plus un démocrate, ce n'est plus un panafricaniste, c'est un fossoyeur, c'est un bitoza. Un bitoza, c'est celui qui ne fait que chercher de l'argent. Il cherche l'argent par tous les moyens, peu importe ce qui arrive à qui que ce soit, il s'en fout. Pourtant, il a vendu, il a été le centre d'une Afrique nouvelle, d'une Afrique sortie des geôles ou des griffes coloniales. Et donc, il joue la carte contraire au Togo et dans les cercles même du pouvoir au Togo. Ça, personne ne peut l'aimer, personne ne peut vouloir cela. Et à raison, il est obligé de prendre bagages et valises pour quitter le Togo.
Mangla, on va aborder un autre sujet, ce dernier sujet. C'est ce sujet que nous donne le journal Le Changement. Le journal, écrit « Politique, usurpation de compétences, ingérence dans des affaires politiques des chefs traditionnels contre des manifestations pacifiques sur leur territoire ». Alors, c'est vrai qu'il y a cette sortie d'un chef traditionnel en début de semaine et qui exprimait son désir de ne pas voir alors des manifestations pacifiques alors sur son territoire. Mais là, on a le droit de savoir, est-ce que c'est son rôle?
Oui, écoutez, depuis hier, quand je suis tombé sur l'information, je me demandais si j'ai mal lu. Est-ce que c'est ce qu'il voulait dire réellement? Puisqu'en réalité, je ne me retrouvais pas du tout. J'ai vu un certain nombre de têtes couronnées qui sont assis quelque part, assez libres. Et puis, ils disaient que non, que désormais, il ne devrait plus y avoir de manifestations dans leur quartier, parce qu'estimant qu'il y a des gens qui causent du tort à leur quartier. Maintenant, j'ai pris le temps, puisque entre-temps, j'étais rassuré que...
Non, mais précisons quand même que nous sommes dans le Golfe 1, et précisément à Dakpamé et ses environs.
Voilà. Et j'ai scruté un peu la déclaration du premier responsable, sinon celui qui a parlé au nom du groupe.
C'est bien Tobi Lanklivi.
J'entends le nom, je ne le connais pas. Mais il dit quelque part, il s'embrouille terriblement. Il dit... que bon, désormais, Dakpamé n'est pas un dépotoir et qu'on organise une manifestation vers GTA et puis les gens se retrouvent chez eux et qu'on pense que c'est eux, entre griffes, les délinquants de la capitale. Et il dit que désormais, toute personne qui veut manifester là-bas sera chassée, entre griffes, du quartier. Et plus loin, il dit tous les étrangers qui réside là, chez eux là-bas, qui veut manifester, sera mis dehors. Bon, finalement, je me dis, il parle de quoi? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Mais en réalité, je pense que c'est un plaidoyer on va faire à l'endroit du ministère en charge de l'administration territoriale. Il faut beaucoup d'ateliers de renforcement des capacités à nos chefs. Parce que eux, en réalité, ils incarnent l'autorité morale. Que quelqu'un soit étranger, que quelqu'un soit délinquant, tout ça... Il est là. Tant qu'il ne commet pas une infraction, tu ne peux pas l'interpeller. C'est vrai qu'à un niveau, à une échelle donnée, un chef de quartier peut interpeller un habitant qui se comporte de façon un peu... Voilà. Mais manifester, c'est de droit pour un citoyen. C'est de droit. Et je ne vois pas pourquoi, même si peut-être on dit une manifestation n'a pas été déclarée à l'autorité... Et que toi, tu te permets parce que tu es chef quartier, tu vas exclure quelqu'un d'un quartier. S'il est autonome et autochtone, tu vas faire quoi? Tu vas aller chasser, il va aller où? Non, en réalité, c'est de la plaisanterie, ils ont fait qu'ils m'en excusent. Et je comprends pourquoi on les expose au soleil parfois quand on dit l'autorité veut venir quelque part. Parce que des gens ne se respectent pas. Vous m'excusez. Ils sont pas dans leur rôle. Le colonel Awaté, je vous en supplie, il faut vous vous rappelez que à l'approche de l'élection d'avril 2024,
les législatives et régionales,
le colonel Awaté qui est dans le ministre de l'administration territoriale était obligé de sortir un communiqué pour rappeler les chefs traditionnels à l'ordre qu'ils ne sont pas des politiques, ils sont des têtes couronnées qu'ils restent dans leur coin, que l'hiérarchie, enfin. L'État, qui est donc le gouvernement et ses services techniques, se charge de réglementer tout. Mais visiblement, les gens n'ont rien écouté. On a vu des chefs qui parlent au nom de leur population, qu'ils donnent leur voix à telle partie, alors que ce n'est pas leur rôle. Donc, je crois que cet appel, je le réitère, renforcement des capacités, l'atelier-là, il faut ça pour les chefs traditionnels.
Merci Magloa. Oui, et l'homme des chefs traditionnels qui s'ingèrent...
Il faut que ton association gère ça.
Et l'homme des chefs traditionnels qui s'ingèrent alors dans la vie politique et qui prennent même position, est-ce que c'est étonnant?
Bon, en réalité, comme Magloa l'a dit, le chef traditionnel, c'est l'autorité morale. C'est l'autorité morale, c'est le garant des us et coutumes. Et il doit veiller également à l'équilibre et à la paix dans sa communauté. Et donc, quand le chef, en réalité, prend la parole, en tant qu'autorité morale, il est censé, justement, apaiser les tensions, trouver un équilibre entre le citoyen et les gouvernants, ou entre les citoyens eux-mêmes, de façon à ce que, dans sa commune, le développement soit quand même réel. Mais la dernière fois, moi, je n'ai pas suivi. J'ai lu quand même une ou deux... de publications sur les réseaux sociaux. J'ai vu quand même quelques photos, mais je ne connais pas le contenu en réalité de ce qui a été dit. Mais de ce que j'ai lu en deux, trois phrases, c'est comme il est interdit aux jeunes, ou bien à des gens qui manipulent les jeunes d'Adakpamé de manifester. Et que, bon, au niveau des chefs traditionnels, eux, ils sont contre. La destruction de. Je crois que j'ai lu un truc comme ça. Bon, donc sur ce fait. Par rapport aux autorités traditionnelles qui prennent la parole, qui prennent position, oui, bon, on peut quand même, sur le plan, d'un point de vue scientifique, dire, à un moment donné, oui, le chef traditionnel a son mot à dire sur toute situation donnée. Mais on le voit dans les pays, on voit le Burkina, on voit la Côte d'Ivoire, on voit le Ghana, mais le chef traditionnel ne parle pas parce qu'il faut parler. Le chef traditionnel parle quand, par exemple, la situation devient inquiétante. quand la situation devient embarrassante. Et donc, comme je l'ai dit, sa voix est prépondérante pour faire amener la paix, pour jouer un rôle de médiateur dans le cas des conflits, dans le cas justement de troubles. Il joue un rôle de médiateur, et mais pas pour dire, pas pour mettre de l'huile sur le feu, pas pour dire quand si vous sortez encore, on va vous tabasser, on va vous arrêter, on va vous faire ceci, mais pour faire amener la paix et parler à toutes les parties pour que la paix prévale dans sa communauté.
D'accord. Ambroise.
Oui, d'abord j'ai vu le truc, j'ai lu aussi, et Magloire a tout dit, hein, et, mais je pense que c'est des bitosards aussi, et j'ai défini ce qu'on appelle un bitosard.
Finalement, il y a beaucoup de bitosards.
Un petit chef de quartier, je ne parle pas de chef canton, un petit chef de quartier, et partout à la Pamé aussi, qui se prévaut, qui se prennent pour... C'est-à-dire que ces derniers mois, il s'est beaucoup agité, ce Lacrimi, c'est comme ça on l'appelle. Ça dit que c'est un agitateur, ça dit qu'il s'agite trop. J'ai même posé la question à un confrère chez Daré Libre. Ce monsieur-là, il est qui? On m'a dit qu'il est venu du Gabon. Et j'ai eu beaucoup d'informations et il distribue aussi beaucoup d'argent, hein, quand les confrères s'y présentent. Mais j'ai l'impression qu'il veut devenir chef canton là-bas. Hein. C'est juste une idée.
C'est juste une impression.
Hein. Une impression plutôt. Parce que, manière dont il s'agite là, parce qu'il y a plein de chefs là-bas, hein. Je dis, c'est simple chef de petit quartier, dans la famille. Et qui agit comme ça, ça veut dire que ce n'est pas anodin. Ça, et le message qu'il a porté la dernière fois, il a des répondants. C'est pas, vous avez vu une vidéo où il y a plus de 100 jeunes qui sont dans le même quartier de la famille, qui chantaient, tout ça là, qui pour le 26, 27, 28, là, ils attendent le chef, tout ça là. Donc, pour dire que, il n'a qu'à faire beaucoup attention. Parce que, moi, je me plains pour certains qui se font du zèle pour dire rien. Il semble que même c'est un trône qu'il a usurpé. Hein? Bon, selon les informations qu'on a.
Non, mais on n'a pas rentré quand même dans ces.
Oui, parce que manière dont il s'agite, je le plains. Parce que les jeunes là, qui sont désœuvrés, qui n'ont même pas d'emploi, qui cherchent à manger, le ventre affamé n'a point d'oreille. Hein? Ce qu'il est en train de faire là, il n'a qu'à se calmer. Et il n'est pas de son rôle. Les gens l'ont dit. C'est pas de son rôle. Je ne crois même pas que la chef de station dans sa loi lui reconnaît ce rôle qu'il a dit. J'ai lu le truc. Il dit que eux n'interdisent pas les manifestations, tout ça là, mais il veut que ce soit dans un cadre légal. D'accord. Mais il n'est pas le chef canton. Il n'est pas le ministre. Il y a plus supérieur que lui dans la zone là-bas. C'est à Klassou, non? Mais à Klassou. Il y a Djalé, tout ça là. Oui, c'est eux. Pourquoi depuis lors, eux ne réagissent pas? Ils savent quand ils vont agir. Le Moro là-bas a dit, et l'homme l'a dit, quand c'est arrivé à un moment donné, mais lui, son cas là a une connotation bleue. Parce que quand tu vois le ciel et tu vois un peu la couleur des mots, tu comprends que le monsieur là ne vient pas se faire de façon anodine. On se connaît dans ce pays. Déjà, ce qui s'annonce pour le 26, 27, 28 là, quand tu vois un communiqué de Mme Ablamba Johnson, je fais un lien, hein, tu comprends que les chefs traditionnels sont peut-être sous pression actuellement. Et les billets peuvent circuler aussi. De faire tout pour, pas mater, mais de faire tout pour empêcher. Et on a appris aussi qu'on a monté certains jeunes pour pouvoir contrecarrer ceux qui veulent manifester. Ça là, on tend vers l'anarchie. Si M. Fong Yassingbe est à l'écoute, ou ses ministres sont à l'écoute, ils n'ont qu'à faire pour ce qu'ils doivent faire. Les gens demandent qu'ils démissionnent. C'est le mot d'ordre. Allez, moi j'ai écrit la dernière fois, les gens s'en sont pris à moi. J'ai vu la dernière fois que Yann Fon n'a qu'à faire les grandes réformes politiques. Les gars disent, monsieur, et ça donne au moins dit, c'est-à-dire qu'il est déjà nuit sur ta proposition-là, que le monsieur démissionne. Donc aujourd'hui, s'il y en a qui prêtent le flanc à cela, c'est les répondants que le pouvoir a trouvé pour pouvoir nous divertir. Et donc, que monsieur le chef, notre chef Lacrivi, sache raison garder dans certaines situations, parce que les Togolais sont en colère.
Merci, chers confrères. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs. Vous savez que c'est le principe de l'émission. Ils peuvent s'exprimer aussi hein, sur nos deux numéros 90 86 35 35 91 36 63 75 et aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5 Canal FM.
Nous
Nous reprenons l'antenne et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35, 91 36 63 75. Vous pouvez nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. C'est sur ces numéros que vous pouvez réagir dans l'émission Club de la Presse. Bonjour Canal FM pour le groupe Mansa de Alain Foucault et ses amis n'ont pas la chance alors de faire du Togo une base de leur business. Le Cameroun, son pays d'origine, peut toutefois lui servir pour cette conférence. Lui, il se dit panafricaniste, mais bizarrement dispose d'une nationalité française et puis une entreprise en France qu'il cesse alors de prendre les Togolais comme des idiots. C'est Ibrahim qui nous écrit le message 90 86 35 35 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous appeler. Allô?
Allô?
Oui, bonjour. Oui,
bonjour, Pascal.
Oui, bonjour. C'est Patrick.
Allô?
Oui, bonjour. Allô?
Allô?
Oui, votre nom, c'est... Je vous écoute, votre nom?
C'est Monsieur Abalo.
Ah, Monsieur Abalo.
Je vous appelle l'avion.
Oui, allez-y, Monsieur Abalo.
Bon, moi, c'est concernant la conférence de Massala. Bon, n'est-ce pas, ceux qui projettent les manifestations, là, ils disent que... Et c'est à cause de Mansa qu'il projette les manifestations. Maintenant, Mansa, ils ont enlevé. À vous entendre là-bas, c'est comme s'ils maintiennent, malgré que Mansa a annulé
c'est reporté plutôt. Hein.
C'est reporté, mais c'est comme ceux qui projettent les manifestations, ils maintiennent, non. Maintenant, les gens maintiennent ça, pourquoi? Vous dites que vous ne voulez pas que cette conférence contienne ça au Togo. Et maintenant, on dit que c'est annulé. Maintenant, vous maintenez pour encore créer des problèmes aux jeunes, les 26, les 16 et 8. Est-ce que vous faites un peu le rapport de ce que je vous dis? Mais les gens n'ont qu'à nous faire l'économie des problèmes. On a autre chose à faire qu'à faire des manifestations qu'on a. Et il y a eu quoi, tout ce qu'on dit sur les réseaux, ce qu'on a frappé les gens. Mais qu'est-ce que les gens veulent dans ce pays? Ou bien ils ont d'autres choses derrière la tête et ils nous trompent que c'est à cause de. Ils profitent des occasions pour monter des tribunaux dans la rue.
Merci beaucoup, M. Abalo, pour votre intervention. Allô? Oui, Basile, bonjour.
Bonjour.
Oui, votre radio, oui, Basile.
Je pense que ça va bien.
Non, ça ne va toujours pas.
Ah, ok, bon.
Là, nous profitons pour recevoir. Nous profitons pour recevoir.
Oh, non, je suis là.
Mais oui, justement, puisque ça dérange les gens à la maison, Basile.
Ça va.
Oui, ça va, allez-y.
Ça va, non?
Oui, allez-y maintenant. Allez,
je suis là.
Oui, allez-y. Basile, allez-y. Décidément, il n'a pas de retour. On va recevoir un autre auditeur. 90 86 37 35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, c'est Arma.
Oui, Arma, comment vous allez?
Je me porte très bien.
D'accord, allez-y.
Tout d'abord, mes compassions pour l'événement malheureux qui vient de...
Merci beaucoup, mon cher Arma.
Il faut dire que aujourd'hui, sur les réseaux et autres, nous sentons que le panafricanisme est instrumentalisé. Ça, il faut le dire clairement. Parce que vous allez voir que des gens qui se disent panafricanistes, ils attaquent d'autres se disant panafricanistes. Donc, ce qu'il faut vraiment faire attention à ce panafricanisme-là que les gens sont en train de dire. Alain Foucault, au fait, tout le monde le connaît. Je n'ai pas ici à dire qui il est. Mais à bien voir, Alain Foucault est en train de prendre les coups qui, bon, c'est-à-dire les coups que quelqu'un est en train de lui donner par personne interposée. Ça, il faut clairement le dire. Parce que n'oublions pas que le panafricanisme qui prend de l'ampleur vient de... c'est-à-dire de la réaction que les pays du Sahel ont eue. Et on voit clairement aujourd'hui que le Togo soit impacté. Ça, il faut vraiment que les gens ne disent que la démocratie, je n'en crois pas mes yeux. Mais c'est plus quelque chose derrière tout ceci. Merci.
D'accord, merci beaucoup, Armand, pour votre intervention. Allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour, Madame Essi.
Et c'est dit que il a dit ton nom, l'intercœur. Et je vais demander à mon frère, Loïc nous a laissé dans la merde. Il est à Lomé, hein, mon frère qui est là-bas.
Oui, mais oui. Après tout, vous aurez son numéro.
Voilà.
Et Madame Essi?
Mmh.
Oui, après tout, vous aurez son numéro pour lui poser ses questions, justement.
D'accord, vous allez me filer son numéro. Parce que je pense à vous tous. Hein.
Merci beaucoup.
Les Keto, les SAS, tout le monde. Quoi, parce que
merci beaucoup, ça fait
vous
plaisir.
Vous traînez comme nous tous, et puis c'est pas normal, quoi. Mmh. Bon, maintenant, dites-moi là, mais pourquoi le président se plaît à nous faire ça? Il est là depuis, bon, moi j'englobe tout pour dire que il nous gouverne depuis plus de 6 avant 2005, où il est arrivé, bon, lui le plus jeune. Mais pourquoi il veut nous gouverner encore forcé? C'est pas bon pour lui et pour l'histoire, c'est pas bon pour lui, quoi. Ça ne nous arrange plus qu'il nous gouverne, quoi, parce qu'il ne nous gouverne pas bien. Il nous opprime, il nous torture moralement. Et tout le monde est malade dans le pays. On est tous dépressifs. À cause de lui, son pouvoir et l'argent. C'est pas normal. Regardez ce qui se passe là. Ça refuse l'alternance. Et les chefs aussi qui s'en mêlent. Les chefs là qui sont nommés. Qui s'en mêlent, qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. De tel que l'Iblia. C'est normal, c'est bon ça. Une république, on gère comme ça. En une épicerie. Et les Alain Foucault aussi qui veulent atterrir pour soutenir ce qu'on vit, l'enfer qu'on vit. Mais quoi? C'est parce qu'on nous gouverne avec les armes. Et le chien à bois, le machin, tout ça.
Merci, merci beaucoup, madame. Merci pour votre intervention. Bonjour, Pascal. Bravo au chef traditionnel d'Adakpame. Le quartier lui appartient. C'est Kossiti qui nous écrit. Allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Gado.
Bonjour, Plateau.
Oui, allez-y.
Bon, moi, je voudrais demander si c'est avec ces filles qu'on doit aller encore aux élections. Le président ne dit rien. Après, ils vont dire que non, les personnes ne sont pas propres. Et le cas se bat pour une tenue propre. Mais ils ne disent rien. Après, on va dire que non, les élections, peut-être, peut-être. Mais ils font quoi? Ils n'ont qu'à revendiquer la tenue d'abord. La tenue d'abord. Bon, seconde fois, le FOCA, là. Moi, je demande au gouvernement de reprendre la somme qu'on a versée à le FOCA parce que leur projet de 5 républiques, ça fait long feu. Donc, il faut reprendre l'argent. Merci, bonjour.
Merci, M. Gado, pour votre intervention. Bonjour. Le plateau, c'est une victoire pour le peuple togolais sur le groupe Mansa et ses soi-disant panafricanistes. Ce report montre que c'est le peuple qui a réellement le pouvoir. La peur a changé de camp. On nous a dit ici plus de 19 août que le chien aboie et le train est en marche. C'est Mohamed qui nous écrit depuis Casablanca. Allô? Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, c'est Monsieur Colani depuis Agoué.
Ah, Monsieur Colani depuis Agoué. Monsieur Colani, allez-y.
Ah, ok, je salue le plateau et tous ceux qui nous écoutent. Il est temps quand même qu'on se dise certaines vérités. La Constitution, c'est un contrat qui est signé entre. Un contrat social signé pour le peuple. Mais aujourd'hui, on nous impose une Constitution. Ce qui pose tous ces problèmes-là. Tous les problèmes que nous avons laissés dans la famille. Le 26, 27, tout ce qui va arriver là. Hein? Pourquoi on ne peut pas s'asseoir? Pourquoi on ne peut pas s'asseoir entre nous les Togolais? Mais qu'est-ce qui se passait? On a eu des blessés. On a mobilisé le camp, tous les camps, de l'Omé à Saint-Cassé. Pourquoi? On demande seulement au chef de l'État, s'il y a une amnistie, vous voulez les prisonniers politiques, on s'attient, on revoit quel conseil peut faire pour aller à la fusion de la République. Ça aussi, c'est difficile. C'est difficile pour nous, à ce 21e siècle. Mais pourquoi il faut faire ce gâchis là? Non, de toutes les façons, moi je l'avais déjà prédit, mais pour l'interlocuteur qui doit parler seul, c'est forcément. Mais dans le cas contraire, c'est la base qui parle. Parce que le peuple ne se retrouve plus dans ses dirigeants, ni dans les partis politiques. Donc il est temps que ceux qui doivent écouter là, donc à prendre les responsabilités, surtout les forces de sécurité.
Merci, monsieur Colani, pour votre intervention. Bonjour à tout le plateau de Canal FM et surtout beaucoup de courage à vous, Pascal. Et ne vous inquiétez pas, vous aurez une voiture bientôt par la grâce de Dieu. Mais pour l'Infoca, peu importe le moment qu'il va organiser sa conférence, soit le régime a démissionné, sinon il aura toujours manifestation. C'est Prénom qui nous écrit 90 86 35 35. Notre dernier auditeur se signale. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Oui, votre nom, c'est...
C'est monsieur Ayao de Zangera.
Monsieur Ayao de Zangera, allez-y.
Je salue le plateau.
Le plateau aussi vous salue.
D'abord, Alain Foucault n'a qu'à aller faire sa réunion là-bas au Cameroun. Un point barre. Pourquoi il a choisi le Togo? Il n'a qu'à aller au Cameroun. B. Le chef d'Arakwan est là, le 26, là, il n'a qu'à quitter le quartier d'Arakwan. Pour laisser les gens manifester. Trois médias, le premier intervenant, il a dit que bon, si on a annulé le soir... La réunion d'Alain Foucault, il faut annuler aussi le. Non! C'est une revendication permanente. On va manifester. Si Alain Foucault revient, on va encore manifester. Voilà le problème. Que c'est permanent. Hein. Je vous salue.
Merci, Ayao, pour votre intervention. Je pense, Ayao, c'est le dernier auditeur pour le compte lors de cette émission de ce jeudi. Je lis cette réaction avant quand même de donner la parole à mes confrères pour le dernier tour de table. Bonjour, Canal FM. Le visage d'Alain Foucault est dévoilé avec son business de panafricanisme. Et pour nos têtes couronnées, il se ridiculise. C'est Léonce qui nous écrit depuis de Lyon. Bien sûr, ses confrères, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission de ce jour. Et là, Mathis Obi, vous avez écouté les uns les autres. Réaction?
Non, pas de commentaires. Bon, j'ai compris que vous avez vu les gens parler avec une certaine frustration aussi. Ça témoigne justement de l'état d'esprit dans lequel se trouvent les gens. Je crois que vivement, aujourd'hui, avec la tension sociale, les gens qui en ont gros sur le cœur, vous savez, l'augmentation des frais d'électricité, ensuite on est revenu aux anciens tarifs, entre les meuniers qui ont maintenu leur prix pour des raisons qu'ils n'ont pas du tout expliquées après, parce qu'avant ils avaient expliqué ça par la hausse du coût de l'électricité. Oui. Maintenant on est revenu aux anciens tarifs, mais ils ont gardé les tarifs qu'ils ont réaménagés. Et ensuite il y a dans le pays il y a une situation vraiment vraiment délétère par rapport justement à la qualité de l'emploi, de la vie. Donc vraiment il va falloir qu'on puisse s'asseoir, on puisse trouver des solutions idoines pour que la vie reprenne normalement la cité.
D'accord, merci. Oui, Ambroise.
Oh bon, moi j'estime que pour les manifestations du 26, 27, 28, que certains ne veulent pas qu'on en parle, je crois que les gens doivent comprendre que c'est la faim qui oblige les gens à sortir. Les gens sont fatigués et ils veulent l'exprimer. Le mieux c'est d'encadrer ces manifestations que de vouloir chercher à le tuer dans l'œuf. Parce que je ne crois pas que ce soit la fin des manifestations, hein. Ce serait encore il y aura encore d'autres programmations. Et donc, l'objectif visé par la manifestation, les gens le savent. Et que c'est tout le Togo qui est concerné. Il ne faut pas que les gens fassent le malin en voulant encore chercher à réprimer et à torturer les gens. Parce que, j'ai vu une vidéo, tout ce qu'on a tué dans ce pays, la liste est là. Ceux qui ont tué aussi, ils ont leur nom. Donc, moi je prierai, c'est Fong Yassimbe qui a la solution dans sa main. Il a la solution de mettre un terme à tout ça. Soit en décidant de quitter le pouvoir et qu'on puisse organiser des élections, ramener la constitution de 92, ou soit il décide de foncer, comme certains de ses frères et autres peuvent l'obliger à rester, mais avec les conséquences. Parce que ceux-là qui vont en France, aux États-Unis, au Canada, tout ça là, ils ne vont pas rester là-bas 50 ans, 60 ans, ils vont revenir au Togo. Et les enfants aussi vont chercher à revenir. Donc c'est le moment ou jamais de tirer les choses au clair et de fait, amende honorable pour que le Togo soit pacifié.
Merci Ambroise. Oui, Magloire.
Non, moi je vais plutôt me prononcer par rapport aux faits allégués par Amnesty International au sujet des cas de torture sur certains manifestants. J'ai lu tout à l'heure chez nos confrères d'Afrique Presse que le gouvernement togolais rejette ces accusations en citant notamment la ministre de la Communication et des Médias. Mais moi, je pense qu'en réalité, c'est des témoignages. Les gens sont vivants, ils ont fait des témoignages. Maintenant, quand on dit un soldat quelque part à torture, ce n'est pas le gouvernement. Et c'est en cela que moi je dis qu'il faut peut-être aller au-delà. Il y a le procureur. Le procureur peut se tout saisir. C'est quand même des témoignages. Ce n'est pas des trucs fabriqués dans un laboratoire. Et donc, mais le plus important, c'est qu'on aille chercher ces gens qui se permettent de torturer leurs propres concitoyens, qui ont les mêmes droits que vous. Si on ne le fait pas, ça ne dissuade pas les gens. Les gens vont prendre du plaisir à le faire, à le faire, à le faire. C'est l'image du pays qui est sali. Donc, je crois que oui, le gouvernement rejette peut-être, mais il faut à l'interne qu'on mette des mécanismes en place pour connaître véritablement les auteurs de ces actes.
Merci beaucoup, Magloire. Kenvi Teko, je rappelle que dans les kiosques ce matin, on peut retrouver les journaux tels que La Nouvelle Tribune, et, Canal D et Ouara les Vainqueurs et Flambeau des Démocrates et aussi le journal Le Dialogue. Le journal Le Dialogue est dans les kiosques ce matin. Autre journal, c'est bien Le Bâtisseur qu'on peut retrouver dans les kiosques. Et également Le Changement, le journal Le Changement qu'on peut retrouver dans les kiosques. Ce sont là les journaux que nous avons à notre disposition. Bien sûr que d'autres journaux sont sortis aujourd'hui, mais c'est ce que nous avons à notre disposition. Merci, cher confrère, d'être passé dans cette émission. Et l'homme Tissoubé, merci d'être passé dans Pascal. Cette émission. Vous êtes le patron ou le directeur de publication du journal La Nouvelle Tribune. Merci d'être passé. Ambroise Ponzo, merci d'être passé dans cette émission. Vous êtes le directeur de publication du journal des Guadians.
C'est un plaisir pour moi.
Le Guadian n'est pas dans les kiosques ce matin.
La semaine prochaine.
D'accord. Sûrement. Merci. Merci, Magloire Kenviteko. Vous êtes plutôt le directeur de publication du journal Flambeau des Démocrates, patron justement alors de ce journal, nouveau patron. Alors nous dit merci et félicitations également
merci,
pour ce travail que vous faites.
Merci, tout le plaisir.
Justement, merci à vous tous qui nous avez suivis puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez appelés aussi pour vos diverses contributions à ce débat. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dacoutier a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Ossou, je vous retrouve demain vendredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Wachteiner, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Wachteiner, la vie dorée.